Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à tous et à chacun, Christophe Jubien pour vous accueillir dans Les Témoins de l'Invisible, cette émission de Radio Rancière qui depuis quelques années essaie, mais très modestement et à sa mesure, de contribuer à percer le mystère des objets volants non identifiés, en s'aidant bien évidemment d'experts, en donnant la parole à des experts tels que Michael Vaillant, qui travaille au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse depuis quelques années, détaché au GEPAN, le Groupement d'Études des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés. Nous avons pu entendre il y a un mois la première partie de l'entretien qu'il nous a consacré. Il y aura quatre parties, car Michael Vaillant est quelqu'un d'extrêmement renseigné, extrêmement aussi cultivé sur le plan scientifique, de sorte que son expertise est tout à fait intéressante. Il a notamment une spécialité concernant les statistiques, ce qui lui a permis d'établir justement des statistiques très intéressantes sur les vagues d'apparition d'OVNI. Ce travail a-t-il permis à Michael Vaillant de tirer des premières conclusions sur l'origine ou la nature du phénomène OVNI ? C'est de ça qu'il va être question aujourd'hui.
J'ai mis le doigt sur des choses, et ce qui m'intéressait là, c'était aussi de me dire, mais qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut signifier, ou qu'est-ce que cela pourrait signifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on trouve une forme d'organisation dans les données, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir construire de nouvelles hypothèses de travail. Et alors, pour revenir juste sur ces effectivement données, sur ce que j'ai pu trouver, ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages, finalement, ils sont très divers, mais il y a des points communs. Et en particulier, il y a deux aspects qu'on va pouvoir retrouver dans la plupart des témoignages. C'est un témoin qui se retrouve dans un lieu, donc il n'est pas n'importe où sur la planète Terre, il est éventuellement chez lui, il est sur la route, chez des amis, en voyage. Et cela dessine un contexte d'observation. C'est une latitude, une longitude, d'une part. Et puis d'autre part, on a une temporalité. C'est à quel moment il l'a observé. À la fois, on peut parler de l'heure, mais on peut aussi parler du jour, du mois et de l'année. Et ces quelques informations, aussi pauvres qu'elles soient, j'ai envie de dire, généralement, on les a dans la plupart des témoignages, à 98%. Du temps. Et c'est très intéressant parce que, certes, c'est peu de données, mais quand on va les accumuler et qu'on va en avoir des milliers, cela crée une quantité d'informations très importante. Et c'est cette quantité d'informations qu'on peut travailler. Qu'est-ce que cela dessine à la fois dans l'espace et qu'est-ce que cela dessine dans le temps, j'ai envie de dire, ce phénomène. Et quand on regarde ça, on peut aller chercher ce que j'appelle des signaux entre guillemets structurés. Alors pourquoi des signaux structurés? Parce que l'idée qu'on a derrière la tête, c'est est-ce que finalement il y a quelque chose qui ne soit pas simplement naturel, simplement la résultante d'une activité locale comme des feux follets, des gaz de marée ou un produit comme ce qu'on voit de plasma à S d'haleine, quelque chose qui serait un peu plus construit, qui contiendrait de l'information quelque part, et qui ne serait pas non plus le produit d'une source humaine, c'est-à-dire qui serait finalement quelque chose vraiment de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver? Et si je prends par exemple les données temporelles, c'est les données sur lesquelles j'ai commencé par travailler, je me suis dit, si on regarde à l'échelle de 50, 60 ans, est-ce qu'on pourrait imaginer des hommes fabriquer un canular en structurant des signaux pendant 60 ans à l'échelle de la planète sur des dizaines de milliers de témoignages? ça paraît très très compliqué. Alors oui, ça pourrait être peut-être un processus d'émergence de la conscience ou de la collective humaine. C'est-à-dire, mais ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, c'était pas aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut, ça existe ce genre d'émergence, mais on le voit par rapport aux tueurs en série ou à des suicides. On voit qu'il y a des effets de vagues locales, mais elles ne sont jamais structurées dans le temps. Et voilà, donc est-ce que cette organisation structurée, finalement, qu'elle soit dans le temps ou dans l'espace, elle n'est pas réductible au hasard? Quelque part, est-ce qu'elle suit une forme d'équation ou est-ce qu'elle suit, j'ai envie de dire, une forme de structure particulière, d'organisation particulière? Et puis la troisième question qu'on peut se poser par rapport à un signal que l'on va rechercher, c'est est-ce que finalement, et ça on rentre dans les hypothèses, ça peut être le produit d'un processus de production technologique. Et ça, les scientifiques au niveau de la NASA vont essayer d'aller, puisqu'on va mettre des antennes d'observation. Il va y avoir par exemple le SCA, qui est en cours de construction, qui est le Square Kilometer Array, qui est un hyper-télescope qui est en train d'être construit dans l'hémisphère sud de la planète, entre l'Afrique du Sud, Madagascar et l'Australie, qui va permettre d'écouter tous les signaux qui vont être émis autour d'étoiles dans un rayon. Alors, on prend cette image, dans un rayon de 50 années-lumière, on pourra capter tous les signaux d'une puissance équivalente à celle d'antennes télé, telles qu'on les a, nous, sur Terre. C'est-à-dire c'est relativement à la fois faible et fort, c'est-à-dire que s'il y a des émissions, on va les capter. Et inévitablement, au travers de ces programmes, je pense qu'on va capter des signaux de plus en plus fins et de plus en plus étranges. C'est-à-dire, ça ne voudra pas dire que ce sont des signaux forcément intelligents, mais en tout cas, on maille notre environnement et on ne va rien, et de moins en moins, rien laisser passer. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est la question que se pose aujourd'hui la NASA, c'est dans tout ce qu'on a déjà mis en place en termes de satellites, de programmes d'observation, à la fois dirigé vers la Terre et à la fois dirigé vers l'espace, est-ce que déjà, on a au sein de ces programmes des choses qui nous permettent de capter des signaux qui seraient intéressants et qui seraient au sens artificiel, non anthropique et non naturel, c'est-à-dire qui rejoindraient cette idée de l'existence de phénomènes inexpliqués de type, entre guillemets, D, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est. C'est intéressant parce que ça nous permet de collecter des données objectives, de les analyser plus profondément et d'aller là aussi chercher quelque part une forme de cohérence. Et pour cela, on en revient à de l'analyse statistique, mathématique, comment ça se structure, d'où ça vient et qu'est-ce que quelque part cela raconte, entre guillemets. Oui.
Alors justement, vous avez donc découvert et approfondi les statistiques, ce qui vous a ouvert un champ d'études captivant et très prometteur concernant ce qu'on appelle les vagues d'OVNI. J'aimerais qu'on parle de cela et peut-être d'abord nous définir c'est quoi une vague d'OVNI.
Alors, très bien, très bonne question, parce qu'effectivement, et c'est comme tous ces signaux finalement, les vagues d'OVNI, ce sont des périodes qui en général durent une à deux semaines d'observation massive à l'échelle d'un pays ou d'un continent, de phénomènes inexpliqués. Et elles se sont quelque part essentiellement produites à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à 1990, pour la dernière observée. Et on a eu à ce moment-là des périodes, soit aux États-Unis principalement, soit en Europe, où des dizaines, voire des centaines d'observateurs, et on ne sait pas pourquoi, se sont mis à témoigner de phénomènes. Et si on regarde ce signal dans le temps, on s'aperçoit que finalement, il y a toujours eu des observations d'OVNI ou de phénomènes inexpliqués depuis la nuit des temps. Et c'est pas nouveau, sauf que à un moment donné, il y a ces pics. J'ai envie de dire ces signalements, en temps normal, ils ne dépassent pas une dizaine d'observations, une vingtaine d'observations, si on regarde la littérature, à l'échelle du globe, par mois. Mais quand on arrive à 200 observations, voire 300, 400, 450 observations par mois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème de médias? Est-ce que c'est un problème peut-être de crise dans un contexte de guerre froide? Bref, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a eu là-dessus une personne, la première personne, j'ai envie de dire une des premières personnes qui les a mises en avant, ces vagues d'observation, c'est Jacques Vallée. Il travaillait déjà dans les années 70 sur les premiers systèmes informatiques, sur la compilation de ces données concernant les ovnis. Et en voyant ces graphiques sortir, deux de ses collègues de l'Université de Los Angeles lui ont dit « Mais c'est bizarre, on dirait un système d'apprentissage supervisé. » Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est que moi, je n'ai pas réussi à retrouver la trace de leur justification, entre guillemets, théorique. Mais c'était une idée. Et c'est une idée qui est restée quelque part, que Jacques Vallée a repris ensuite sous la forme d'une théorie du contrôle, c'est-à-dire qu'un phénomène qui, quelque part, serait structuré dans le temps et aurait cet effet sur l'humanité, un effet de contrôle. Alors, moi, je dois reconnaître que je ne l'ai pas exactement abordé par ce biais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à étudier ces phénomènes pris dans le temps, dans cet axe temporel, c'était pour une autre raison. C'était plus pour rechercher des corrélations environnementales. Mais j'y reviendrai. Et en particulier, je cherchais des corrélations avec l'activité solaire. Parce que j'avais déjà vu qu'effectivement, il y avait éventuellement une corrélation avec la psychologie, entre le soleil et la psychologie. Alors, ça paraît assez curieux, mais on sait que aujourd'hui, il y a quelques études sur les corrélations entre l'activité solaire, par exemple, et la bourse. Et la bourse, qui est une activité éminemment psychologique, mais aussi, je l'ai évoqué, sur les suicides et effectivement les meurtres. Et c'était assez intéressant parce que finalement, pourquoi on pourrait se dire intuitivement le soleil pourrait avoir une influence sur la psychologie des personnes. Alors c'est un vrai domaine, je pense que c'est un vrai domaine de recherche. On a peu d'éléments à ce jour. On peut imaginer, on peut inférer en tout cas que ça peut avoir un impact. En tout cas, on sait que le soleil a un impact électromagnétique à la fois sur l'ionosphère, et l'ionosphère elle-même a un impact au niveau du sol parce qu'elle va rentrer quelque part dans des modes de résonance et va créer des courants de très basse longueur d'onde au niveau du sol qui peuvent avoir des effets, ce qu'on appelle les courants ELF, sur les animaux et les plantes. Et là, peut-être que ça a un effet aussi sur la psychologie, finalement. Et donc voilà, je cherchais des formes de relations, c'est une hypothèse, hein, bien sûr, sur des cycles solaires. Alors la difficulté des cycles solaires, au passage, c'est qu'ils sont jamais totalement réguliers. Ce sont des cycles en 10 ans et demi, 11 ans, et des cycles en 5 ans, ce sont des cycles emboîtés, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant. Et il y a un cycle aussi en 22 ans. Donc, c'est des cycles qui suivent ce qu'on appelle des puissances de 2. Et ils sont emboîtés, mais ils ne corrélaient pas forcément avec, ou pas bien. Il y avait une petite corrélation avec l'activité des phénomènes non identifiés. Et c'est un peu par hasard, et puis justement en regardant, en revenant sur cette idée, j'ai envie de dire sociologique, sur cette activité sociologique à la fois du soleil, et puis finalement de cette idée d'apprentissage, que je me suis dit, mais comment finalement cet apprentissage supervisé pourrait être réalisé? Et qu'est-ce que ça veut dire un apprentissage supervisé? Déjà, un apprentissage supervisé, c'est simplement une relation élève-maître. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va venir, un professeur, qui va venir vous enseigner des informations ou des connaissances sur un sujet nouveau. Et quel est le sujet en l'occurrence? C'est le sujet, on peut considérer que c'est le sujet des ovnis. Vous avez donc la société humaine, qui au départ est quelque part neutre, n'a pas de connaissances sur le phénomène OVNI. Et petit à petit, va s'acculturer, va emmagasiner des informations, des connaissances sur le phénomène. Et le maître, quelque part, on peut imaginer que ce serait une organisation hypothétique qui fabriquerait ces phénomènes, ou en tout cas les produirait à des moments bien déterminés. Et ensuite, cela aurait effectivement cet effet d'apprentissage supervisé. Et ce que ne savaient pas à l'époque, en tout cas, Jacques Vallée et ses collègues, c'est que finalement, et ça c'est arrivé dans les années 90, il y a des techniques d'apprentissage supervisé qui sont plus puissantes que d'autres. Et en particulier, il y en a une qui est très intéressante, qui est l'apprentissage espacé dans le temps. Parce que finalement, à part effectivement ces signaux très puissants, il n'y avait rien pour étayer, j'ai envie de dire, cette hypothèse de façon très concrète. Et ce que j'ai là aussi pu découvrir au travers de mes lectures, c'est que on avait cette technique d'apprentissage espacé. Je la fais simple, mais vous voulez apprendre une leçon d'anglais, par exemple, ou des mots, et vous voulez économiser votre énergie, c'est-à-dire que vous voulez y passer le moins de temps possible. Quelle stratégie allez-vous employer ? Ben, soit vous prenez vos mots et vous les répétez, entre guillemets, bêtement, de façon très répétitive et de façon très régulière dans le temps. Ça, c'est une stratégie, c'est souvent la stratégie du bachotage qui a été employée quand on était jeune, pour nos tables de multiplication, etc. Mais vous en avez une autre, donc qui est l'apprentissage espacé dans le temps. Alors, elle est très intéressante parce que, en gros, elle dit, mais plutôt que de répéter tout de suite, attendons un peu que finalement le temps fasse son effet sur le cerveau et que le cerveau déconstruise les informations qui ont été acquises. Alors, pourquoi laisser le temps au cerveau de déconstruire ? Parce que finalement, cela permet d'identifier les informations sur lesquelles il y a eu des lacunes et de ne, quelque part, faire un rappel que sur celles-ci. C'est-à-dire, on ne va pas faire un rappel, d'une part, sur l'ensemble des informations, mais que sur les informations qui n'ont pas accroché, j'ai envie de dire, dans la mémoire, d'une part, et puis d'autre part, après que effectivement il y ait eu ce temps utile de diffusion de l'information dans le réseau, alors là c'est le réseau social, mais ça peut être un réseau de neurones à l'échelle d'un individu, dans le réseau de neurones de l'individu. Et une fois que c'est fait, une fois que finalement cette information elle a été acquise puis déconstruite, on va faire ce rappel. Et alors ce qui est intéressant dans le rappel, c'est que l'information va se déconstruire aussi, mais de façon plus lente, moins rapide que la première fois. Et au deuxième rappel, ce sera le cas. Au troisième rappel, ça va se déconstruire encore de façon plus lente, etc., etc. Et on considère qu'en général, sur une information simple, quand on dit simple, c'est pas trop abstraite, une information que vous êtes capable de connecter à d'autres informations dans votre imaginaire, au bout de 5 fois, généralement, une information est considérée comme acquise à l'échelle de la vie d'un individu. Et d'ailleurs, au bout de 5 rappels. Et ces rappels, on s'est aperçu qu'ils suivaient quelque part une progression géométrique dans le temps, c'est-à-dire qu'idéalement, il fallait les positionner les uns après les autres en multipliant à chaque fois le temps par 2 entre chaque rappel. Si je prends un exemple simple, vous faites un rappel le premier jour, puis le deuxième, le quatrième, le huitième, le seizième, etc. Et ce qui est vrai à l'échelle d'un individu va être aussi vrai à l'échelle d'un groupe de travail et aussi à l'échelle d'une société. Or, la seule nuance, j'ai envie de dire, ou la seule difficulté, c'est que plus vous augmentez la surface et la zone que vous voulez toucher, plus, quelque part, le temps entre les rappels va devoir être augmenté, il y aura une inertie dans les réseaux, qui est l'inertie qui correspond au temps de diffusion d'une part et au temps d'oubli d'autre part. Et donc, cette inertie, finalement, à l'échelle de l'humanité, elle est très importante. Et quand j'ai vu ces logiciels, on en avait un à l'époque qui s'appelait MemoWeb, qui vous permettait d'apprendre finalement ces connaissances en suivant cette théorie, cette loi d'apprentissage espacée dans le temps. Donc, il vous entraînait à votre liste de mots, il calibrait effectivement le degré d'abstraction en vous faisant un premier test d'oubli, et puis ensuite, il vous faisait votre programme d'apprentissage dans le temps. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, on ne retrouverait pas ça à l'échelle d'années sur les vagues d'observation? Parce que jusqu'à présent, ça ne disait rien à personne, on n'en avait rien dit de ces vagues d'observation, on n'arrivait pas à trouver de loi qui les relie. Et là, je me suis rendu compte que ça marchait bien, en fait, et c'était une grande surprise. Il y avait un ensemble de vagues, à commencer par la première en 1947 aux États-Unis, qui étaient reliées effectivement par des périodes de temps croissantes. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, ces périodes de temps, 5 ans, 10 ans, 21 ans, 43 ans. Alors, quand je dis 5 ans, c'était entre la première en 1947 et la deuxième en effectivement 1952. Et puis ensuite, vous continuez comme ça dans le temps. Et sur ces vagues d'observation, ce qui était très intéressant, effectivement, c'était d'observer qu'elles étaient absolument précisément organisées. C'est-à-dire qu'on avait une équation qu'on appelle en loi de puissance, qui les reliait, mais à 10-6 près. Et compliqué ensuite, parce que malgré tout, quand on est devant ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la preuve est suffisante? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et c'était là où finalement, je me suis dit, bon, est-ce que je lève le crayon, ou est-ce qu'il y aurait un moyen de retrouver ces informations, ces données-là, temporelles, par ailleurs? Alors, bon, sans vouloir aller trop vite, bien sûr, parce que déjà, une fois qu'on en est arrivé là, on est assez content, parce qu'on voit qu'il y a une hypothèse qui pourrait tenir la route, qui serait celle d'un apprentissage supervisé. Un apprentissage supervisé ici, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une organisation effectivement structurée dans le temps. Et pourquoi un apprentissage supervisé aussi? Qu'est-ce que ça voudrait dire du point de vue de la phénoménologie? On en revenait à l'hypothèse de l'effet de la conscience collective. Est-ce que ce serait un phénomène émergent? C'est-à-dire, finalement, des gens qui, partout dans le monde, de façon presque épidémique, se mettent à voir des phénomènes. Oui, pourquoi pas, sauf qu'on l'a jamais observé, mis à part pour des suicides ou des meurtres en série, mais de façon locale et jamais répétée dans le temps. Jamais de façon organisée, j'ai envie de dire, sur la durée. Il n'y avait pas d'équivalent, en tout cas, dans la littérature. Et puis, par ailleurs, si c'était une intelligence, pourquoi ce mode? Ça m'a fait quand même penser à quelque chose, et j'étais probablement pas le seul. C'est comme si le phénomène voulait rester sous un niveau de bruit. C'est-à-dire que, quelque part, l'impact, au sens visuel, au sens médiatique, c'est-à-dire cibler toujours des observateurs qui, en général, sont rarement plus de 2, 3, 4, 5 ensemble. Ce sont jamais des phénomènes qui sont vus par des centaines d'observateurs, très rarement. Peut-être que le plus rare, on a peut-être 10 observateurs, mais c'est très, très rare.
Alors, je m'excuse, mais je pense moi à la vague de Lutzen, où là, on est avec des centaines d'observateurs quand même dans les années 80. Et nous avions fait une émission avec un policier américain, Kevin Soravilla, qui avait été à la fois enquêteur et témoin sur cette vague. Là, c'était quand même des dizaines et des dizaines de personnes arrêtées sur le bord des routes pour voir passer des engins ou des objets qui avaient la taille d'un terrain de football quand même.
Absolument. Alors oui, je parle... Alors, tu as tout à fait raison, je parle du continuum, c'est-à-dire que en général, ces phénomènes vont être plutôt chirurgicales. Et quand ce sont des vagues, on va dire sur le pic de la vague, on peut avoir effectivement des dizaines d'observations, mais disons-le bien, c'est des observations qui sont réparties dans l'espace. Quand je parle de groupes d'observateurs, ce sont des groupes qui sont réunis ensemble et qui sont au même endroit, au même... Voilà. Mais sur un espace, sur de quelques heures, il peut y avoir effectivement des centaines d'observateurs, bien sûr. Et c'est quelque part, c'est un peu la difficulté de fond de beaucoup d'enquêtes, c'est de ne pas avoir assez de témoins pour pouvoir croiser des témoins, j'ai envie de dire indépendants, c'est-à-dire qui n'étaient pas en groupe, qui n'étaient pas au même endroit, et qui pouvaient effectivement parler d'un phénomène commun qui serait inexpliqué. Parce que là, ça rend effectivement beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire, les témoignages, quand on est capable de trouver ces témoins indépendants. Et là, effectivement, on a ces exceptions, on a ces cas où ça se passe, c'est-à-dire qu'on a des groupes de témoins, et on a aussi une diffusion très large dans l'espace. Et malgré tout, avec une économie, toujours, de moyens, j'ai envie de dire, puisque la signature de cette loi, c'est, quelque part, vouloir économiser son énergie, c'est-à-dire ne pas vouloir trop en faire, ne pas vouloir trop en mettre, quelque part, tout en atteignant son objectif. C'est-à-dire cet objectif, entre guillemets, hypothétique, qui serait « je vous apprends ce qu'est un phénomène ou ce que sont les phénomènes ». Du coup, finalement, est-ce que cet objectif, quand on le voit dans le temps, et on pourrait le retrouver dans l'espace ? C'était la question que je me suis posée.
Et la réponse, si réponse il y a, eh bien, vous la connaîtrez en écoutant la suite de cet entretien avec Michaël Vaillant du Centre national d'études spatiales, donc dans 4 semaines, dans la prochaine édition des Témoins de l'Invisible. D'ici là, passez une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.
Voilà le soleil qui se lève en plein milieu de la nuit pour aller boire un verre de lait. Le petit môme regarde son papa qui grandit. On reconnaît plus qu'on connaissait. La lumière du jour fait que tout s'obscurcit. L'espoir s'accroche au piquet de craie. Une photo de Saturne donne le mal du pays. Le Guéluron Gottlieb s'énerve. Dans l'équipe de France de foot, vivement qu'ils reviennent. Avec eux ce serait parfait. Raymond Coppin, Mimoun, puis Anthony Fontaine. Ça me plaît plus comme ça me plaisait. Là la vie qui passe le plus clair de son temps, à compter les minutes qui filent. Une balle perdue pleure, où elle est ma maman. La solitude est difficile. Voilà neige et pluie qui remontent vers le ciel. Voilà les fusées qui tombent. L'âge d'or nous arrive et devient si réel. Qu'elle pousse l'utopie dans la tombe. Quand il manque de tout, un être est dépeuplé. Allons enfants, vous la partie. Vers les sillons sanglants que vos pères ont creusés. Pas triste, pas triste patrie. Là du pain complet, même plus un strapontin. Le blé attaque son chant d'adieu. Si tous les gars du monde savaient taper les mains, ils se taperaient plus avec entre eux. Là l'orage qui se prépare à partir en week-end. Faut bien profiter des beaux jours. Vers le Mont Saint-Michel où un cheval se promène, où la marée galope toujours. Là que les soldats du monde font de la méditation, les cimetières manquent de clientèle. Dita et dit Mitchell et à Souchon, que les feuilles de 18 juin se ramassent à la pelle. Là passe-moi les ponts, les v'là du slow, les v'là. Tous les deux dans un bateau. Je fais savoir à ma banque que pour mon découvert, je viendrai les voir dimanche. La même au monde qui chante, mon petit poussin qui crie, et les mauvaises nouvelles du soir. Et nous voilà tous ensemble, et on pleure et on rit. Et le soleil se lève de plus en plus tard. Ma moumoune qui chante, mon petit poussin qui crie, et les mauvaises nouvelles du soir. Et nous voilà tous ensemble, et on pleure et on rit, et le soleil se lève de plus en plus tard.